Vous écoutez RTL. RTL.
Cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Je crois être parvenu à ça.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ah, quel est le point commun entre Göring, Arletty et Coco Chanel? Eh bien, c'est le Ritz, ce célèbre palace parisien qui a fermé pour travaux. Il va réouvrir d'ailleurs en 2015. On en profite pour se glisser dans ses couloirs, ses chambres, ses salons privés. On va vous raconter les secrets qui s'y sont échangés, les couples aussi qui s'y sont formés, une histoire passionnante et dérangeante parfois. On vous la raconte avec Tilar Mazzeo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, vous avez un accent, vous êtes américaine.
Oui, je suis américaine et merci pour l'invitation et merci en avance pour ignorer mes petites erreurs en français. Hein.
Il n'y a pas de souci.
Merci, hein, vous êtes très gentille.
Vous êtes passionnée pour l'histoire du Ritz sous l'occupation. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les couloirs de ce palace à cette époque précise?
Oui, c'est une histoire très, très puissante pour moi, parce que, comme vous connaissez peut-être leur hôtel, avait divisé pendant la guerre. Et à le côté, qui fasse le Place Vendôme, ça c'est la maison, en fait, pour les officiers allemands. Mais l'autre côté, qui fasse le Rue Cambon, reste ouvert pendant la guerre pour toutes les célébrités internationales, comme Coco Chanel, et Arletty, et beaucoup des autres gens. Et dans les couloirs, et dans les salles de manger, c'est un espace public et un espace...
Mais c'est ça qui vous a intéressé? Pourquoi vous êtes intéressée à cette histoire, vous qui êtes une Américaine?
Oui, c'est parce que j'ai écrit un livre au sujet de l'histoire de parfum Chanel numéro 5. Et quand je suis en train de faire mes recherches, j'ai trouvé dans les archives les dossiers avec beaucoup d'informations ou les espions.
Justement, on dit que vous êtes accompagné de Grégory Martin, vous êtes l'éditeur et le traducteur. On va faire l'interview à deux, ça va être plus facile parce que c'est pas toujours simple de vous comprendre. Vous avez un bel accent. Dites-nous les archives sur cette période de l'occupation dans ce palace du Ritz. Elles ont été faciles à découvrir ou ça a été quand même compliqué le travail, Grégory?
Les archives, en fait, ont été au début très faciles et très vite, en fait, on s'est aperçu qu'elles étaient manquantes, qu'on trouvait la première page et que la deuxième était manquante. Et en fait, toute l'aventure de ce livre, c'était de trouver les registres qui étaient tenus par le Ritz chaque semaine avec la liste des personnes qui passaient.
Et pourquoi ces archives, elles étaient dérangeantes? On les a détruites?
Il y avait des noms. Il y avait les noms propres de tous les Français qui venaient rencontrer les nazis, qui venaient faire des affaires dans les salons. Et donc, a priori, ces archives, elles existent quelque part, mais où? C'est toute la question qui cherche encore sa réponse.
Mais vous avez quand même réussi à reconstituer la vie quotidienne dans ce palace du Ritz. Quand est-ce que le Ritz est inauguré? Quand est-ce qu'il naît?
L'hôtel a été fondé au fond dans la dernière année de le 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Et pour moi, c'est une fête très importante parce que, bien sûr, cette association continue sous l'occupation.
Et qui crée le Ritz?
Ouais, c'est une famille suisse. Et c'est aussi une fête très importante pendant la guerre. C'est la famille de César Ritz et aussi sa femme, Marie-Louise Ritz, avec aussi la collaboration d'une chef de cuisine qui s'appelle bien sûr Auguste Escoffier. Et il est en train de faire une petite liaison avec l'actrice Sarah Bernhardt. Et ça, c'est la raison pour le l'intérêt. Dans le cercle Dreyfusard.
Donc le Ritz naît à la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est un succès immédiat, Grégory Martin, le Ritz? Tout de suite, il attire les stars?
Oui, bien sûr, parce que le Ritz est moderne. Le Ritz, c'est là où le 20e siècle est en train de s'écrire. C'est là où les Dreyfusards se retrouvent. C'est là où il y a un ascenseur. C'est encore une grande nouveauté, l'eau à tous les étages. Donc, pour le coup, c'est vraiment the place to be pour les Parisiens, non seulement, mais pour tous les étrangers de passage, à l'heure où la France, Paris, est encore la capitale du monde.
Alors, qui on croise dans les couloirs à cette période ?
Proust, Cocteau, plus tard, encore plus tard, les grands couturiers. Donc, vous avez finalement tous ceux qui vont écrire le XXe siècle, tous ceux qui laisseront leur nom dans l'histoire, qui se retrouvent dans ces années-là, dès l'ouverture, dès l'inauguration, dans les salons du Ritz.
C'est un rendez-vous des hommes politiques aussi, le Ritz ?
C'est surtout le rendez-vous, le lieu où on fait de la politique. C'est là où les nouvelles idées émergent, c'est là où les nouvelles idées se retrouvent. C'est pas vraiment un lieu de... parce que c'est sur la rive droite, parce que c'est quand même dans un quartier assez excentré par rapport au lieu du pouvoir en France. C'est pas là où se retrouvent les hommes politiques, mais c'est là où la politique émerge. C'est là où se fait l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus finalement.
Que se passe-t-il à la veille, on va avancer un peu dans le temps, à la veille de l'invasion allemande, on est en 1940, Winston Churchill et George Mandel vont se voir et se dire des choses très importantes.
Tila, c'est en fait Churchill vient pour essayer de convaincre Mandel de continuer le combat. A priori,
Mandel à l'époque, il est
Secrétaire d'État, il est un homme politique très jeune encore, avec tout un avenir devant lui. Et en fait, la France, la défense française est en train de s'écrouler, et donc Churchill vient d'essayer de convaincre Mandel de prendre la relève et de le suivre à Londres pour créer un gouvernement français en exil, ce que De Gaulle fera plus tard.
Tiller Mazzeo, vous êtes historienne américaine et vous publiez cette histoire du Ritz sous l'occupation. Pourquoi ce palace reste ouvert pendant l'occupation ?
Parce que c'est une famille suisse, bien sûr, et parce qu'il y a un ordre direct de l'Allemand qui a dit hein, c'est très important pour les Allemands que le hôtel reste ouvert. C'est un hôtel exceptionnel à Paris parce que les Allemands voudraient profiter de Paris, comme tout le monde.
Et le Ritz est le lieu idéal pour en profiter. Les coulisses du Ritz sous l'occupation, c'est un voyage dans le temps qu'on vous propose ce soir. Un voyage pour les curieux, forcément un voyage sulfureux dans un instant sur RTL. On vous raconte l'arrivée des officiers allemands dans le palace parisien. Comment tout a basculé en quelques heures.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce soir, on vous offre une balade inédite dans les couloirs du Ritz, sous l'occupation, avec l'historienne Tiller Mazzeo et son éditeur Grégory Martin. Dans ce palace parisien, où vous nous l'avez dit, on croise beaucoup de personnalités, des artistes, Hemingway, Coco Chanel, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Arletty, Picasso. L'ambiance va évidemment changer avec l'occupation. Le Ritz est rapidement réquisitionné par les Allemands, Grégory Martin. Ça se fait comme ça, très rapidement, du jour au lendemain.
Ils savent très bien où est le Ritz. Ils savent très bien que c'est le meilleur hôtel. Vous pensez bien que tous les dignitaires nazis, avant l'invasion de la France, avaient leurs habitudes à Paris, au Ritz. C'est l'adresse qu'ils connaissaient, c'est là où ils s'installent en arrivant.
Et ça se fait du jour au lendemain, cette réquisition de l'hôtel
En une journée, tout était prévu. Tout était prévu, les listes des lieux à réquisitionner, leur affectation.
Comment il transforme l'endroit d'ailleurs ?
Il ne le transforme pas. En fait, c'est l'originalité du Ritz, c'est le seul palace à être resté un hôtel. Alors que l'Ulietessia, le Meurice ont été transformés en quartiers généraux pour la Love d'Afeu, pour l'Abwehr, le Ritz reste un palace.
Mais ça, il y a quand même deux espaces. Il y a l'espace.
Il y a l'espace prestigieux qui donne sur la place Vendôme, ce magnifique hôtel particulier du 15 place Vendôme. Et vous avez derrière le bâtiment plus récent de la rue Cambon, qui est un peu plus moderne, qui a des chambres plus fonctionnelles, les grandes suites. Les plus luxueuses, les plus agréables, sont sur la place Vendôme. Elles sont occupées par les grands dignitaires nazis quand ils viennent à Paris.
Est-ce que ça veut dire que le Ritz, pendant l'occupation, continue d'accueillir d'autres clients qui n'ont
Bien
rien
sûr,
à voir avec
les Allemands ? Bien sûr, c'est ça qui fait la folie de cette histoire. C'est que vous avez l'histoire qui se passe dans les salons, avec dans le premier bâtiment donc les dignitaires nazis, et au fond, les Français, les clients lambda, les collaborateurs qui viennent faire des affaires, les résistants parmi le personnel, les juifs cachés dans les chambres de bonne. Vous avez tout ça qui est concentré dans un même endroit, qui est raconté dans le livre 15 Place Vendôme de Tiller Mazzeo.
Donc c'est quoi l'ambiance ? C'est une ambiance de grand hôtel malgré tout, avec tout ce qu'on entend d'un palace, dans le service, dans la façon d'accueillir les clients, avec une frénésie un peu peu particulière, avec une tension.
C'est le luxe à la française, mais c'est le luxe à la française sous l'occupation. Le Ritz, pendant ces 4 années, est un parfait échantillon de ce qui s'est passé dans tout le pays, avec, comme je vous le disais, les collaborateurs, les résistants, les attentistes. L'immense majorité des gens sont attentistes, tous essayent de survivre avec les fastes sans retenue de Göring, qui, lors de son premier jour à Paris, ressort sur la place Vendôme faire son shopping et s'acheter un bâton de maréchal, serti de pierres précieuses. Et il parade, je ne sais plus qui raconte ce témoignage qui est rapporté dans le livre de Tilar Mazéo, il parade comme une majorette dans l'escalier, dans le grand escalier de l'hôtel.
Et puis Göring s'attribue aussi la suite impériale, c'est le plus bel espace évidemment de l'hôtel du Ritz, et il le transforme, je crois qu'il fait déposer une énorme baignoire, pourquoi ?
En fait, il s'attribue pas, si vous permettez, Sidonie.
Je vous en prie.
Il expulse Manu Militari, la riche américaine qui était là à demeure et qui comprend, somme toute, que bon, il vaut mieux prendre une chambre plus petite que de résister au Feldmarschall. Et oui, il se fait installer une baignoire gigantesque dans laquelle il va prendre des bains d'eau très chaude, parce qu'il se trouve qu'il est accro à la morphine, à l'héroïne, à toutes sortes de substances opiacées liées aux blessures qu'il a reçues pendant la Première Guerre mondiale, dont il souffre énormément. Et il est sous la coupe d'un charlatan, d'un médecin, qui l'a convaincu qu'un traitement à base de piqûres, prise en étant immergé dans une grande baignoire, vu la corpulence du personnage, pouvait l'aider à se soulager de ses maux chroniques, de ses douleurs chroniques.
Mais il se donne souvent en spectacle, comme vous nous l'avez raconté, avec son bâton de maréchal transformé en bâton de majorette. Il y a ce côté exhibitionniste.
C'est folie morbide, c'est l'aveuglement désastreux du régime nazi incarné en une personne à qui vous lâchez la bride dans le lieu le plus merveilleux d'Europe. Forcément, ça dérape.
On croise aussi parmi les clients un peu nouveaux de ce Ritz pendant l'occupation, des marchands d'art. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ?
Les marchands d'art, ils viennent alimenter Göring dans ce qui est sa deuxième drogue, les œuvres d'art, puisque Göring, disait-il pour Hitler, mais surtout pour lui, s'est livré à un pillage sans retenue de toutes les plus belles pièces d'œuvres d'art, de toutes les plus belles œuvres d'art en Europe. À Paris, forcément, pour lui, c'était un peu un supermarché, si vous me passez cette expression. Et donc, il y a ces scènes racontées merveilleusement dans le livre, où il est immergé dans sa baignoire gigantesque et où les plus grands marchands viennent lui faire défiler sous les yeux les plus beaux chefs-d'œuvre des musées parisiens qui prendront la direction du Troisième Reich.
Et puis, le Ritz, c'est aussi une enclave privilégiée. Par exemple, on y boit beaucoup de champagne.
On y oublie les horreurs et les méfaits de l'occupation. Mais de toute façon,
on y cache du champagne aussi.
On y cache du champagne parce que tout de même, c'est la France et les Allemands n'auront pas tout. Donc la cave est mise à l'abri.
Donc il y a une réserve de champagne cachée aux occupants.
Oui, il y a toujours, vous savez, dans ces vieux bâtiments, vous tirez une armoire et derrière se révèle une cache précieuse. En l'occurrence, là, c'était pour les bouteilles de la cave.
Et le Ritz, vraiment, maintient son niveau de service jusqu'aux abris anti-aériens. On va raconter ça dans un instant. Ça concerne Coco Chanel. Le Ritz, sous l'occupation, feuillette les archives de la vie quotidienne de ce palace entre 1940 et 1944. Et dans un instant, on va aussi vous raconter les amours scandaleuses d'Arletty et de Coco Chanel sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Alors on imagine par exemple Arletty dire ça dans les couloirs du Ritz, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Entre 1940 et 1944, sous l'occupation allemande, finalement peu de lieux ont concentré autant d'intrigues et de destins hors du commun. On se faufile ce soir dans les couloirs du Ritz avec nos deux invités, Tilar Mazéo, vous êtes l'auteur de 15 Place Vendôme, le Ritz sous l'occupation, vous êtes accompagné car vous êtes américaine de votre traducteur et éditeur Grégory Martin. Arletty, c'était une habituée du Ritz. D'ailleurs, elle tombe amoureuse d'un officier allemand. Elle le rencontre dans les couloirs ou dans les salons privés du Ritz ?
Elle le rencontre après. Vous savez, dans les histoires d'amour, chacun a sa version. L'histoire a gardé celle d'Arletty qui en croise un bel allemand. Et Arletty aimait bien tomber amoureuse, donc elle s'est laissée faire.
Et elle ne se cache pas.
Elle ne se cache pas parce que c'est Arletty. Imagine-t-on Arletty honteuse, rasant les murs? Non, Arletty, c'est Arletty. Et comme elle le disait très bien, mon cœur est français, mon cul international.
Mais ça fait joli. Scandale, cette relation Arletty et cet officiel.
Attention, ça fait scandale après la libération. Ça fait scandale quand on fait la chasse aux collaboratrices horizontales. Ça fait scandale.
C'est joli ça, les collaboratrices horizontales. Donc les femmes qui ont couché avec l'occupant allemand.
Et dont on a dit qu'elles avaient couché avec l'occupant allemand. C'était aussi une arme pour s'en prendre à certaines. Et donc oui, Arletty tombe amoureuse, elle a cette histoire d'amour. Et à un moment, elle doit choisir entre son pays et son cœur. Elle choisira finalement son pays, elle ne suivra pas son amant et elle en paiera un prix très élevé.
Parce que qu'est-ce qui se passe à la libération de Paris? Son amant lui s'enfuit. On l'imagine, et il lui propose de partir avec elle, c'est ça ?
Oui, il lui propose, elle a le choix, elle hésite, elle se dit que le prix soit peut-être trop cher à payer. Finalement, elle se cache chez Sacha Guitry quelques jours, chez d'autres amis. Elle se rend, entre guillemets, elle passe en commission d'épuration, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'humour, et en tout cas qui étaient assez peu perméables aux raisons du cœur, et elle fera un petit peu de prison. Avant finalement d'avoir une carrière un peu en dentier par la suite.
C'est une résidente permanente, Arletty, du Ritz ?
Elle avait trouvé ses habitudes. Après, c'était pas une résidente permanente. Je crois qu'elle avait une chambre qu'elle occupait parfois, son amant, lui.
Alors, Arletty n'a... Pardon, je vous ai interrompu.
Non, son allemand, lui, étant affecté, avait une chambre au Ritz, donc c'est là où elle se rencontre, où leur histoire d'amour a vécu.
Alors, Arletty n'avait pas été très discrète dans les couloirs ou dans les salons ou au bar du Ritz. Elle s'affichait avec cet officier allemand. En revanche, Coco Chanel a vécu un peu le même genre d'histoire, mais c'était beaucoup plus discret. Racontez-nous.
C'était beaucoup plus discret parce que Coco Chanel, à l'époque, c'était déjà Chanel. C'est déjà la boutique de la rue Cambon qui est juste en face du Ritz. C'était déjà quand même mademoiselle et une cliente très importante de l'hôtel. Donc elle aussi, le cœur ayant ses raisons, tombe amoureuse. Alors les deux histoires sont un petit peu différentes quand même parce que Coco Chanel, on connaît très bien l'histoire maintenant, avait vendu dans les années 20 son entreprise de parfum aux frères Wertheimer. À la famille Wertheimer, pardon, et une famille juive. Et une fois les lois anti-juives passées par le régime de Vichy, elle a fait tout son possible pour récupérer, pour voler l'entreprise qu'elle avait vendue, en profitant des lois d'expropriation des propriétaires juifs.
Et au moment de la libération, comment elle se concilie finalement les bonnes grâces des Américains ?
En partant en Suisse. Elle part et elle restera en exil en Suisse pendant plusieurs années avant de revenir et finalement d'avoir une carrière, elle, éblouissante.
Elle a été aidée par Winston Churchill, c'est vrai ?
Il faudrait pouvoir leur demander à tous les deux. La rumeur dit qu'effectivement, Winston Churchill lui a dit quand partir et lui a vraiment dit de partir. Qu'il fallait vraiment qu'elle parte parce qu'elle pourrait avoir de gros soucis. Et c'est vrai que tous deux étaient des amis très proches depuis les années 20, depuis assez longtemps en fait, depuis les années folles de Churchill à Paris, sa folle jeunesse.
Mais vous faites bien la différence entre Arletty et Coco Chanel, pourquoi ?
Disons que Arletty tombe amoureuse, Coco Chanel aussi, Coco Chanel est antisémite.
C'est une différence majeure et c'est pour ça qu'il fallait le dire.
On parle du Ritz sous l'occupation, c'était très chic le Ritz, et jusqu'aux abris où on conduisait les stars comme Coco Chanel, qu'est-ce qu'on trouvait dans ces abris, comment ça se passait ?
Un palace est un palace, des caves ou greniers. Donc les abris anti-aériens, pas encore anti-atomiques, mais anti-aériens, étaient forcément chauffés, étaient forcément équipés de duvets d'une maison de luxe célèbre. Et forcément, quand les clients descendaient aux abris, c'était accompagné de leurs domestiques qui, en l'occurrence, pour le cas de Coco Chanel, portaient son masque anti-aérien, son masque à gaz en cas de bombardement chimique sur un petit coussinet de velours.
Et puis elle pouvait trouver, j'ai lu dans le livre, son sac de couchage Hermès, s'il vous plaît, pour passer la nuit. C'est les histoires qu'on raconte de ce Ritz, de ce palace parisien sous l'occupation. On continue d'écouter aux portes, d'ouvrir les plaques et les chambres secrètes du Ritz sous l'occupation sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et on vous raconte ce soir l'histoire du Ritz sous l'occupation avec l'historienne Tilar Mazzeo et son éditeur et traducteur Grégory Martin. Le palace parisien qui a abrité pendant 4 ans des personnages aussi différents. On a raconté leur histoire, Arletty, Coco Chanel, Goebbels, Göring. Et puis il y aura aussi Laura May Corrigan. Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, Grégory Martin. C'est cette richissime américaine qui se fait expulser par Göring, c'est ça ?
Voilà, à l'arrivée, mais il faut partir vite et finalement elle manque de bagages, donc il faut laisser ses fourrures, ses précieuses fourrures. Ce qu'elle ne sait pas, et heureusement qu'elle ne le savait pas, c'est que Göring est très friand de fourrures. Donc voilà, il faut partir en vitesse, il y a ses placards. C'est la particularité du Ritz qui fait sa grande modernité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pour des raisons un peu décoratives, les placards sont des portes coulissantes qui sont intégrées dans les murs. C'est très discret, on les voit quasiment pas, et en l'occurrence, Laura May Corrigan met toutes ses fourrures dans un placard et fait tirer une armoire devant. Les fourrures passeront toute l'occupation dans le placard.
Göring ne s'en doutera jamais.
Non, et fort heureusement pour la propriétaire.
Et ces placards, justement, tous ces placards secrets, est-ce que justement ils ont permis de cacher des résistants, des juifs
Tout à fait, c'est parce que les escaliers d'accès aux chambres de bonne et plusieurs espaces de rangement étaient dissimulés de la même manière. Ce qui fait que le réseau de résistance qui existait parmi les personnels du Ritz hébergeait notamment les aviateurs américains, les aviateurs alliés tombés aux alentours de Paris, en attendant qu'ils aient l'occasion de quitter le territoire occupé par les nazis. Certains ont été hébergés sous les toits du Ritz, notamment dans ces placards secrets, ainsi que des juifs. C'est quelques familles juives qui étaient proches des employés également. Vous saviez comment ça se passait. Un peu l'entraide de proximité pendant l'occupation, dissimulée dans ce palais du 15 Place Vendôme.
À quelques mètres de Göring.
Vous imaginez, vous avez
surréaliste
au premier étage la suite impériale Göring qui fait cette ablution dans sa baignoire.
Et cette descente en fourrure
Et son bâton de majorette. Vous avez juste au-dessus les juifs cachés, des résistants qui complotent, les principaux officiers de la résistance allemande anti-nazie.
Le barman, d'ailleurs, c'est un résistant.
Il sert de boîte aux lettres dormante à l'opération Walkyrie.
Il sert de
boîte aux lettres dormante. Les différents conjurés viennent lui laisser des messages pour les uns et les autres, parce que s'ils se les donnent de la main à la main, ça risque d'éveiller. Non. Le truc, c'est que comme ils vont tous boire des whisky au Ritz en fin de soirée, ils glissent l'enveloppe comme ça dans un petit coin, le barman les récupère et les donne à qui de droit. C'est comme ça que se montra l'opération Walkyrie.
C'était quoi l'opération Walkyrie?
C'est la tentative d'assassinat d'Hitler, je crois, en 1944, dans son quartier général en Pologne. Vous savez, cette bombe qui explose quelques minutes trop tard.
Et en août 1944, il y a aussi un homme, c'est un ingénieur et espion américain qui débarque au Ritz et il a une mission très précise.
Oui, en août 1944, donc les Américains sont déjà à Paris, Paris est libéré, et les Américains n'ont pas encore gagné la guerre. Ils sont en train de mener une course à la main atomique, ils pensent que les nazis font la même chose et donc ils envoient cet ingénieur, qui est en fait un ingénieur espion à Paris, pour essayer de percer les secrets des savants engagés dans la course à l'arme atomique du côté nazi. On sait, nous, l'histoire maintenant, nous la connaissons, que c'est les Anglais, les Américains qui vont gagner, mais il y avait une vraie crainte, et donc, en fait, le Ritz, comme était cette plaque tournante dont on a parlé tout à l'heure, c'est là où les espions venaient à la pêche aux informations.
Mais comment ça se passe concrètement? Il y a un interrogatoire dans une des chambres du Ritz
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait, il y a un interrogatoire, nous avons les moyens de vous faire parler.
Ah, ça a aussi servi à ça, le Ritz?
Ça sert à tout, un palace.
Et puis donc, je l'annonçais tout à l'heure, il y a l'histoire d'Hemingway également. Pourquoi Hemingway a un lien particulier avec le Ritz?
C'est chez lui. C'est chez lui depuis son premier séjour à Paris, depuis les années 20, depuis la Lost Generation, où il buvait c'est pas qu'il buvait, il buvait à en mourir, à être ivre mort, voilà, dans ce qui est devenu le bar Hemingway, mais qui s'appelait pas encore le bar Hemingway. Et donc il a été fort marié que les Allemands aussent s'installer chez lui, et il avait fait le pari en arrivant à Londres pour couvrir les opérations de débarquement. Il avait fait le pari avec Frank Capa, le fameux photographe, d'être le premier en...
Robert Capa.
Robert Capa. Le premier à mettre le pied en France, il se trouve qu'il a perdu. C'est Robert Capa qui est le premier à photographier les plages du débarquement. Hemingway était fou de rage. Et donc, une fois qu'il a retrouvé son compère sur les plages normandes, ils ont fait le pari qui serait le premier à Paris, qui serait le premier au Ritz. Et donc, s'ensuit ce qui est raconté dans le livre de Tilar Mazzeo, 15 Place Vendôme, une course-poursuite ahurissante en jeep à travers le bocage normand, à savoir qui sera le premier à arriver à Paris. Hemingway qui se fait tirer dessus, évidemment, c'est idiot, par un tank américain qu'il a pris pour une voiture de reconnaissance.
Tout ça pour gagner un pari.
Voilà, pour gagner un pari à Paris. Finalement, Hemingway est le premier arrivé à Paris, me semble-t-il. Et après, finalement, il faut se ruer au Ritz. Et donc, c'est une épopée que raconte Tillard. C'est plusieurs chapitres du livre.
En plus, il arrive, il paraît, Hemingway, avec un pistolet mitrailleur à la main au Ritz. Ça fait
La, attendez, la chemise grande ouverte. Avec ce qu'on imagine d'odeur de tabac, d'alcool, de transpiration. Une cour, en fait, il a levé toute une armée privée.
En fait, il pense qu'il va libérer le Ritz, c'est ça, Hemingway.
Et surtout, en fait, ce qu'il va libérer, c'est les bouteilles de la cave.
Celles qui étaient cachées, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà.
Dans la réserve spéciale.
Qui sont ces premiers visiteurs? Parce que, en fait, il va s'installer, Hemingway, dans les chambres du Ritz. Il va installer ses amis. Et il y a des amis qui vont lui rendre une petite visite. Des gens assez connus, finalement.
Le bruit court très vite à Paris qu'Hemingway est de retour. Donc les géants littéraires, les grands noms des lettres de l'époque se précipitent au Ritz pour le rencontrer, dont le couple Sartre-Beauvoir, qui, je crois, l'avait déjà rencontré brièvement. Donc, retrouvailles au couture d'une coupe de champagne, bien évidemment, une soirée qui se prolonge, tous les trois dans la chambre d'Hemingway, et Simone de Beauvoir qui dit à un moment, gentiment, à Jean-Paul Sartre, « Tu peux rentrer à la maison, je vais rester. »
Oh, une histoire d'amour.
On aurait vu Simone de Beauvoir le lendemain matin, un peu décoiffée, repartir dans ses habits de la veille.
C'est joliment.
Il faut dire que si Hemingway arrivait la chemise ouverte avec un pistolet mitrailleur,
auriez-vous pu résister?
Sidonie Bonnec comprend.
Sidonie, très bien.
Évidemment. Tillard Mazzeo, vous publiez ce livre 15 Place Vendôme, Le Ritz sous l'occupation, aux éditions de la librairie Vuibert. C'est qui? Vous êtes américaine et on l'entend à votre accent, mais on voudrait quand même vous redonner la parole quelques secondes. C'est qui votre personnage préféré dans toute cette histoire?
Pour moi, c'est Blanche Ozello, la femme de le directeur de l'hôtel.
Alors, la femme du directeur de l'hôtel, c'est quoi son histoire?
En fait, c'est une Américaine qui a rencontré le directeur qui est français. Il se trouve qu'elle est juive américaine, et dans les années 30, encore aux États-Unis, être juive pouvait être un problème, donc elle se faisait passer pour une catholique. Elle avait réussi, grâce au barman dont tu parlais tout à l'heure de l'hôtel, à obtenir de faux papiers. Parce que dans les États-Unis à l'époque, vous aviez encore la confession qui était indiquée, donc elle avait des papiers de catholique. Il n'empêche qu'elle était quand même révulsée par ce que faisaient les nazis. Et donc, elle laissait les lumières de la cuisine allumées quand il y avait des bombardements pour servir de repère aux pilotes alliés qui survolaient Paris. La Gestapo en aurait eu vent. On ne sait pas trop pourquoi elle a été arrêtée. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle est torturée par la Gestapo plusieurs semaines. Elle s'en remettra jamais. Elle sera totalement brisée. Elle basculera dans la folie. C'est toujours compliqué, ces histoires, quand une histoire personnelle culbute, rencontre à pleine vitesse la grande histoire. Donc l'histoire de ce couple qui était si confusément lié à celle du Ritz, en fait, bascule un peu dans la folie et se terminera tragiquement. Mais ça, c'est une histoire que vous trouverez dans le livre de Tillard Mazzeo, 15 Place Vendôme.
Édité à la librairie Vuibert. Merci infiniment.
Vous écoutez RTL.